Bonjour Arnaud.
Bonjour Stanislas.
Bonjour à tous et bienvenue sur MVA pour ce quatrième cours dédié aux plans de reprise d'activité et aux sauvegardes avec Azure. Et dans ce cours numéro 4, tu vas nous expliquer comment on va pouvoir en fait sauvegarder et répliquer un serveur physique directement dans Azure.
Eh bien, tu as tout résumé pour l'objectif de ce cours, impeccable. On fera un petit détour par les principes de base de ce qu'est un plan de reprise d'activité. Quelques petits rappels pour voir de quoi on parle, parce qu'on en fera référence dans la suite du cours, donc c'est vachement important. Et puis ensuite, effectivement, l'objectif, mettre en œuvre, alors de manière très simple et pragmatique, j'ai vraiment fait ça en mode démo, pour faire que ce soit vraiment step by step, vous ayez toutes les clés pour le mettre en œuvre chez vous.
Donc, pas à pas, et puis on va prendre...
Voilà, backup se traduisant par sauvegarde également en français. Quelques anglicismes se glisseront sans doute dans cette présentation. Donc l'agenda relativement simple, introduction aux notions de PRA, quelques notions sur
SR, donc Azure Site Recovery.
Pour les serveurs physiques.
Et on verra comment mettre en œuvre effectivement Azure Site Recovery en mode pas à pas, avec quelques serveurs que tu as répliqués directement dans ASR, et tu vas nous montrer effectivement les éléments de configuration, le tout de manière vraiment simple et organisée.
Eh bien, c'est parti, on commence avec les quelques rappels nécessaires pour un plan de reprise d'activité PRA ou DRP.
Voilà. Donc, un plan de reprise d'activité, c'est basiquement ce que vous allez déclencher le jour où vous avez un désastre majeur ou une indisponibilité majeure dans votre data center ou votre rack de serveur ou votre salle machine. Donc, souvent, on pense au désastre, entre guillemets, naturel ou criminel, on va dire incendie, inondation, tremblement de terre. Tempête de neige et du coup impact sur la fourniture d'électricité, des choses comme ça qui rendent en fait une informatique indisponible pour une entreprise.
Et c'est vrai qu'on néglige souvent les attaques d'aliens et la déménagisation du data center qui peut en être la conséquence naturelle.
Effectivement, c'est un petit peu plus rare, mais l'idée effectivement du plan d'emploi d'activité, c'est de toujours prévoir des sauvegardes, de les tester également, chose qui n'est pas fait régulièrement, hélas, et puis d'avoir également un plan d'urgence à mettre en place pour pouvoir redémarrer, entre guillemets, l'outil informatique. Pas forcément dans sa version totale, mais dans une version suffisante pour que l'activité d'entreprise puisse continuer en fait à avoir lieu. Parce que souvent aujourd'hui, l'informatique est un petit peu au centre des métiers en termes d'outils. Et si on n'a pas d'outils, c'est dommage de laisser finalement l'activité d'entreprise s'arrêter parce qu'en fait on a eu un problème avec l'informatique.
Alors première réaction, c'est quoi un plan de reprise d'activité?
On n'aura jamais de problème. Alors effectivement, le déni est la première réaction souvent quand on n'a pas envie de faire quelque chose ou quand on n'y a pas pensé ou qu'on estime que ce n'est pas intéressant. Alors effectivement, 100% des gens qui ont eu un problème, finalement, après se sont dit « Ah, finalement, ça aurait pu nous servir ». Notez, c'est que, voilà, si j'avais su, beaucoup d'entreprises chaque année, en fait, ferment parce qu'en fait, ils subissent effectivement un impondérable. Leur informatique est plus disponible, ils perdent des données par exemple, ils sont plus capables de remettre en place le service rapidement, ils perdent leurs clients et du coup leur activité souvent s'arrête. Donc c'est pas neutre. Sur des structures moyennes ou petites, ça peut vite en fait fermer une société. Sur des grandes structures, ça peut avoir un impact sur l'image de marque ou autre.
Bah, tu perds l'outil principal de production d'une entreprise effectivement. Et après, il y a un chiffrement qui en est assez naturel. Donc le fameux plan B, le fameux plan de reprise d'activité, en quoi ça consiste?
En fait, ça consiste simplement à définir un ensemble de procédures, de former des gens et puis d'avoir des outils qui permettent de redémarrer un sous-ensemble de la production, voire la totalité, mais en général, c'est plutôt un sous-ensemble qui va permettre effectivement, en cas de désastre majeur dans l'endroit où sont stockés principalement l'ensemble des serveurs, des équipements, etc., de pouvoir redémarrer dans un site alternatif et de pouvoir redémarrer un ensemble permettant de travailler. Donc si on prend l'exemple numéro 1 qui est un data center ou une salle machine qui brûle, de pouvoir redémarrer, on va dire, un environnement de secours, parce que c'est vraiment ça on parle, c'est le plan B, qui va permettre de travailler le temps de reconstruire l'environnement principal, et quand l'environnement principal sera nouveau disponible, de refaire la bascule du secours en mode dégradé vers quelque chose qui sera nouveau 100% opérationnel. Alors, il y a quand même certaines considérations au-delà du technique qu'il faut se poser la question sur le site de secours. Un site de secours, le but, ça fait partie du PRA d'évaluer les risques et de mettre en place les contre-mesures. Si on évalue que le risque, par exemple, est de type incendie ou sismique, même inondation, il faut réfléchir quand on va faire son site de secours. Donc le site de secours, qui sera une nouvelle salle machine, etc., doit être au moins dans un autre bâtiment. C'est un peu stupide de faire le PRA sur la salle d'à côté. S'il y a un incendie, peut-être des chances que ça se propage en cette personne de l'immeuble. Si on fait un plan de secours, ce n'est pas une bonne idée de faire le plan de la salle de secours en zone inondable dans un niveau qui serait plus bas que, enfin, plus proche de l'eau que la salle primaire, sans doute, mais c'est bon de le rappeler. C'est pareil, on ne crée pas la salle de secours au-dessus de la salle principale. Enfin, c'est des choses basiques. L'idée, c'est un peu d'externaliser, c'est ça, c'est d'ailleurs le but, et de séparer un petit peu les deux bâtiments, les deux emplacements où il y aura les data centers. Sachant qu'il y a toujours une limitation physique dans la réplication synchrone de données qui fera qu'on ne va pas aller non plus à des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres parce qu'il y a des questions de latence tout simplement qui existent.
Un peu de vocabulaire utile pour savoir de quoi on parle dans un plan de reprise d'activité. Le premier indicateur, c'est le RPO, le Recovery Point Objective. C'est quoi ?
Bah, c'est en gros la durée maximale ou la quantité maximale de données que tu acceptes de perdre. Acceptes de perdre en cas d'interruption non prévue de ton data center, feu, etc. etc. Souvent, on réduit ça, on ne devrait pas, mais on peut le réduire un petit peu à la fenêtre de sauvegarde en disant, voilà, moi, je fais des sauvegardes tous les jours. Et je m'appuie uniquement sur ça pour pouvoir redémarrer, le cas échéant, une production de secours. Bah, ça veut dire qu'ici, dans ce cas-là, mon RPO sera au maximum de 24 heures si je fais ça tous les jours. Donc, je vais accepter de perdre 24 heures de données. Après, bah, en fonction des business, en fonction des besoins, en fonction des contraintes légales, etc., on peut avoir un RPO qui va être effectivement un petit peu plus petit. Dire, bah, par exemple, j'accepte de perdre une heure de données ou une demi-heure de données ou moins. Là encore, ça va dépendre après de choses. Donc, tu l'auras compris, quantifier le RPO, c'est définir effectivement les objectifs de sauvegarde ou les fenêtres de réplication ou de synchronisation de données du site principal vers le site de secours. Donc ça veut dire connaître également des volumétries. Tu ne peux pas dire je vais me faire un RPO de 30 secondes si en fait toutes les minutes tu génères des gigas de données parce que tu as des grosses bases de données qui mouinent, etc. Il n'y a pas de magie non plus.
Tu n'es pas capable de les transmettre sur le site secondaire.
Exactement.
Ensuite, deuxième indicateur,
le RTO.
Donc là, on est de l'autre côté de l'incident.
De l'incident, hein. Exactement.
On est sur le temps que j'accepte pour faire repartir la production sur un jeu minimal, c'est ça ?
Voilà, le temps que j'estime maximum, le délai maximum que je m'autorise avant de redémarrer la production. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de ce temps-là, c'est le temps pour redémarrer quelque chose une fois qu'on a tout eu l'incendie. Bah, il ne sera pas instantané. C'est rare qu'on ait un RTO instantané, mais on va en parler juste après. Mais en général, effectivement, il y a le temps de faire les bascules vers le site de secours, de prévenir les équipes, de redémarrer des services probablement, de vérifier que ça marche et de reconnecter, on va dire, les utilisateurs ou les clients sur ces services.
Donc, on définit ça en avance, évidemment, avec les besoins business de l'organisation, parce que, au bout d'un moment, plus on a des choses qui vont être rapides à repartir en production, et plus ça va coûter cher. Du coup, c'est logique que ce soit le business qui sponsorise ça.
C'est toujours un équilibre. Et effectivement, là encore, on parle d'objectifs qui sont définis à l'avance. C'est pas pour rien qu'on parle de plan de reprise d'activité. Donc, on planifie, en fait, potentiellement une reprise d'activité. Effectivement, du coup, on se pose des objectifs. Parce que si on se dit, oui, il faut qu'on arrive à redémarrer, mais du coup, on s'est posé aucun objectif. On ne peut pas avoir quelque chose de qualitatif et qui va fonctionner. Parce que si on dit, on a redémarré, on a mis 3 mois pour démarrer, mais on a redémarré. Là, il y a des chances que l'entreprise n'ait pas survécu à ça. Donc, à retenir, c'est que, effectivement, c'est intéressant de parler avec les métiers, parce que c'est là, en fait, où vous verrez qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, la qualification, finalement, des éléments importants de survie de l'outil informatique pour une entreprise. C'est-à-dire que plus une ressource devient critique pour le business, plus le RTO doit être faible. C'est-à-dire plus le temps minimum pour redémarrer une mini-production, une sous-ensemble de la production doit être réduit. Si on est vraiment sur du très très faible, imaginons, cas hypothétique, du trading par exemple, où effectivement chaque minute perdue coûte énormément d'argent potentiellement, là on sera plutôt sur un RTO qui sera très 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 faible, voire presque, qui demande non plus d'avoir du plan de reprise d'activité, c'est-à-dire de redémarrage, mais plutôt dans un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire d'arriver à basculer automatiquement sur un système actif déporté dans un autre site et de continuer avec une interruption de quelques secondes. Et donc, on continue effectivement l'activité. Et on n'est pas là à dire j'arrête un système et tout cracher, je vais en redémarrer un autre. C'est-à-dire que là, on a vraiment deux systèmes actifs avec une bascule, ce qu'on appelle basiquement un cluster ou un géocluster dans ce cas-là. Rapidement, ça, juste quelques exemples, c'est-à-dire que quand vous allez qualifier, là c'est un exemple de tableau pour définir la criticité, le niveau le plus haut ici, on pourrait dire je veux une très haute disponibilité avec une indisponibilité par an de 3 secondes, donc là on est sur du super critique, de l'extrême on pourrait dire, avec un RTO qui est de 1 seconde et pas de RPO. Donc pas de RPO, ça veut dire qu'on est effectivement sur du géocluster avec de la réplication de baies en mode synchrone, et que le RTO d'une seconde, ça veut dire qu'il faut que le cluster géographique soit capable de basculer en une seconde. Voilà. là, on est vraiment sur des cas un peu extrêmes. Et puis, à l'inverse, on pourrait se dire, bah, voilà, il y a peut-être des applications que je peux classer comme non critiques. Je ne sais pas, la gestion des congés, par exemple, en mode de crise, c'est peut-être pas forcément l'outil qui est le plus important. Mm-hmm. On pourrait se dire, bon, bah, OK, chaque année, il peut être indisponible pendant tant de jours. Et puis le RPO ici sera de 72 heures et le temps de le redémarrer, cet outil, je peux le faire en une semaine. C'est pas ça qui va empêcher ma boîte de fonctionner. Voilà. C'est juste un exemple de tableau, mais vous pouvez vous inspirer de ce type de tableau pour faire un tableau à, mettons, trois niveaux de criticité dans vos systèmes. Et après, à partir de là, bah, vous sélectionnez ce qui réellement est important.
RPO, RTO, si on met ça sur un graphique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble.
Voilà, alors graphique sur lequel on s'est très inspiré du schéma de Wikipédia qui était vraiment très très bien fait. Donc là, tu as une petite sauvegarde ou une copie qui est symbolisée par le petit disque dur en noir. Le service marche bien, on fait régulièrement effectivement cette copie de cette sauvegarde. La cata arrive, donc l'incident. La production, du coup, il n'y a plus qu'un service opérationnel. Et puis bah, après, on va commencer à redémarrer un service en mode dégradé qui va durer un certain temps jusqu'à arriver à nouveau un service opérationnel. Donc tu l'auras compris, le RPO se situe
en amont de l'incident.
Exactement. Entre et le petit disque, la dernière sauvegarde, la dernière réplication et le problème.
Et le RTO, c'est en aval, c'est une fois que l'incident est passé, quand est-ce qu'on va avoir la possibilité de redémarrer quelque chose.
Voilà. Donc là, ici, désormais, on a les bases d'un plan d'entreprise d'activité. Et un plan de réactivité, en fait, basiquement, c'est quand même trois choses. C'est effectivement des solutions techniques. On va en parler dans les modules suivants avec nos solutions Azure Site Recovery pour répliquer notamment des serveurs physiques, donc les protéger dans Azure. Et puis, bah, c'est également des processus.
Des processus qu'on doit documenter, dire que bah, voilà, la restauration de tel serveur va se faire de telle manière, en allant récupérer telle chose à tel endroit, exécutant telle commande, récupérant le mot de passe à tel endroit par telle autre personne. Pas de miracle, hein. On estime qu'on a à peu près 10% de ses capacités intellectuelles hein, quand on est dans ce genre de situation un petit peu d'urgence, donc il ne faut pas avoir à réfléchir, il faut que simplement tout soit huilé. En matière de processus, alors ça peut être des processus d'opération technique, mais ça va être aussi des processus organisationnels, hein, dire oui, aller voir à tel endroit, faire
prévenir les utilisateurs, en leur indiquant quels étaient les process pour prévenir que l'outil informatique est en panne, quel délai on leur donne avant de redémarrer l'outil, etc. Enfin, tout ça doit être testé, retesté.
Et tout ça, c'est exécuté par des personnes, et ces personnes, de la même manière, elles doivent être entraînées à faire cette opération. Normalement, elles ne doivent pas découvrir le plan de prise d'activité lors de son exécution primaire. Normalement, elles ont déjà dû l'exécuter dans un environnement de test qui a été répété soit régulièrement, soit après un changement majeur sur le système. Et puis, c'est avoir des personnes qui soient capables d'être dispatchées sur différentes tâches et de faire des choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément été planifiées. Et c'est pour ça qu'il y a les processus.
Voilà, donc il y a des procédures qui suivent, c'est vraiment des checklists avec toutes les étapes. Donc tout ce qui doit être fait pour redémarrer doit être documenté. Et tout ce qui est documenté dans le PRA doit être fait le jour J. Et il n'y a pas là non plus à se dire, ouais, ça, je vais gagner du temps, je ne vais pas le faire, etc. Non, c'est une liste. Vous voyez ça exactement comme un pilote d'avion de ligne qui, avant de décoller, même s'il décolle trois fois par jour et que ça fait des années qu'il est pilote, eh bien, il va arriver dans son avion et puis il va prendre sa checklist avec son copilote et puis il va reprendre un à un les différents éléments. Mmh. Effectivement, si on fait ça, c'est justement pour éviter les erreurs et pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc il n'y a pas de question à se poser, même si effectivement il le sait, il a l'habitude des outils, il refait la checklist pareil. Et bien finalement, un PRA, c'est pareil, on suit une checklist qui a été documentée, qui a été mise à jour. Les pilotes régulièrement, en fait, testent ces choses-là. Et le fait de faire les mises à jour, c'est exactement comme un pilote qui passerait d'un Airbus, il y a quelques années, un nouvel Airbus, qui aurait légèrement changé parce qu'il y a deux, trois commandes qui ont évolué dans le cockpit.
Voilà, on ne découvre pas les nouveaux boutons.
Hein. Exactement, le but n'est pas de découvrir un nouveau bouton ou de le bypasser, c'est effectivement de l'avoir, de mettre à jour la procédure pour que le pilote, quand il fait sa checklist, effectivement, il a tout qui est documenté et il se pose zéro question. Dans un PRA, on ne doit pas se poser de questions, on doit l'avoir déjà prévu à l'avance, planifié, d'où la notion de plan d'emploi d'activité, et on doit exécuter le processus.
Alors, vous l'avez compris, dans ce cours, notre objectif, c'est de vous fournir les solutions techniques et puis un certain nombre de choses qui touchent aux environnements de test pour aider tous ces environnements de test, mais c'est uniquement des solutions techniques. Il y a aussi tout le reste à prendre en considération, et ça, malheureusement, on ne peut pas forcément vous aider dans tous les cas. Alors, quelles options ? Copie de fichier, évidemment, je peux prendre une copie de la configuration de mes machines virtuelles, les disques virtuels, etc. C'est un petit peu manuel. Les sauvegardes qui peuvent et qui doivent être déportées sur un autre site, normalement, peuvent être déportées sur Azure, même, tout à fait. On a aussi à disposition de la réplication synchrone dans les outils. Donc ça, c'est, on le disait, quand je veux plutôt un plan de continuité d'activité, où j'ai un géocluster, une synchronisation DB en temps réel, et puis je peux repartir sur une copie quasiment exacte de la prod en face, sur un autre data center. Et puis on a la réplication asynchrone qui est HyperVRéplica ou Azure Site Recovery, et c'est ce dont on va discuter dans ce cours.
Et ça c'est bien, parce qu'en fait ici dans ce slide on parle de machines virtuelles. Or, l'objectif de ce cours est de parler également des machines physiques. Et la machine physique, donc la machine virtuelle, vous voyez qu'on a plein d'outils qui existent nativement. On peut se dire une machine physique, est-ce qu'on peut répliquer une machine physique sous la forme d'une machine virtuelle ailleurs dans Azure? Parce que finalement, ça ne fait pas investir des capex sur une salle secondaire de secours, mais des opex sur un service dans le cloud tel que celui de Microsoft. Et bien, c'est tout l'objectif de ce cours de montrer que effectivement, qu'une machine virtuelle, c'est, on va dire, pas simplifié, mais c'est assez souple parce qu'effectivement, on déplace d'un environnement virtualisé à un autre environnement virtualisé. Mais la grosse problématique, c'est les clients qui nous ont dit, mais nous, on a également des serveurs physiques. On souhaiterait également pouvoir avoir cette solution de secours et du coup, avoir nos VM et nos serveurs physiques sont protégés au même endroit. Et c'est tout l'intérêt, finalement, de la solution qu'on va détailler juste après.
Et bien, vous êtes au bon endroit puisque c'est l'objectif du module numéro 2.